17h04 dans le retour à Boulevard 102.1. Sur la route, il y a des problèmes, notamment sur la 20 ouest, là, le solide ralentissement qui est bien parti entre route du président Kennedy et Taniata en raison des travaux dans ce coin-là. C'est pas mal la normale que ce soit difficile. On s'en était sauvé pour une partie de l'après-midi, mais là, on est vraiment dedans. Sinon, pour l'accès au pont Pierre-Laporte, direction sud, quelques problèmes aussi. Capitale-Est, hauteur de Robert Bourassa, c'est au rouge également. S'il y a quoi que ce soit par texto, 418-971-1021. Mais si je me fie au texto qu'on a reçu dans la minute, vous le connaissez, le numéro. Il n'y a pas trop de problèmes avec ça, en espérant que vous soyez toujours à l'écoute. Mais on a, c'est la divergence d'opinions, la pluralité des opinions.
Il n'y avait pas de pluralité beaucoup dans les commentaires reçus, mais bon.
Ben, c'est moins la pluralité.
Tu as créé une belle unanimité, je trouve, chez les auditeurs.
Au sein de notre auditoire.
Je suis la pluralité. Dans les prochaines minutes, bon, je pense pas qu'on va chicaner ben. On va parler de quelque chose qui touche tout le monde. Puis c'est un sujet qui revient chaque année dans vacances de la construction. Puis malheureusement, tu sais, souvent après, là, je me suis dit, après le premier week-end, on avait déjà quelques accidents mortels. Puis on se disait, ouais, le bilan risque d'être tough encore cette année. Pour parler un peu de tout ce bilan-là routier des vacances de la construction, Geneviève Côté, qui est porte-parole à la SAC. Salut!
Allô?
On en est au 12e jour des vacances de la construction. Tu sais, là, on va rester à peu près le dernier week-end. Au niveau du bilan routier, on en est où par rapport aux dernières années? On est-tu pas mal dans la moyenne? On est-tu au-dessus?
Si on compare jour à jour, on est un petit peu en dessous. On est 14 de décès. L'an passé, on était à 17. Mais on se souvient, l'an passé, hein, le bilan catastrophique des vacances à construction, 35 décès sur les routes. Donc, au 12e jour, on en est là. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a eu un adolescent qui est décédé en moto à Sainte-Luce. Donc, à ça va s'ajouter. Nous, on attend toujours les confirmations des policiers. Mais ça pourrait s'alourdir là, dans les prochaines heures.
C'est-tu moi ou les accidents de moto? Puis, tu sais, on est des nouvelles, on en parle souvent. Puis, des fois, on a l'impression d'en voir plus. Puis, finalement, c'est pas nécessairement le cas. Mais me semble que les accidents de moto, on en a beaucoup depuis le début de la saison.
Oui, et c'est violent, un accident de moto. Le motocycliste, là, il n'y a aucune protection en cas d'accident. Puis c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation, entre autres un peu partout au Québec aussi pour ça, pour le port aussi des protections, des vêtements de protection pour les motocyclistes. Et aussi tous les enjeux de partage de la route où on dit aux automobilistes, faites attention aux motocyclistes, puis aux motocyclistes, faites attention à votre conduite pour vous assurer de pas justement être victime d'un accident parce que ça ne pardonne pas souvent. Là. Puis oui, il y en a eu quelques-uns depuis le début des vacances de construction.
Est-ce qu'on sent que c'est messages-là de prévention, de partage de la route, ils sont entendus ou on se dit souvent, Colin, me semble que le message est long à entrer.
Oui, c'est entendu, mais pas par tout le monde. Force est de constater parce que 80% des accidents là, sont dus au comportement humain. Donc, ils auraient pu être évités. C'est des petits gestes qui nous semblent simples, mais qui peuvent nous sauver la vie à chaque fois. Puis dans les vacances de la construction, ben, on pourrait se dire, ah, les gens sont en vacances, ben, justement, il va y avoir moins d'accidents, les gens vont être plus relax et tout, mais ça fait un petit peu l'effet contraire. C'est que les gens, souvent, on va voir aussi beaucoup d'accidents qui vont survenir au début des vacances de la construction, puis à la fin des vacances de la construction. Parce que l'an passé, quand on regarde les statistiques, là, un décès sur deux était à moins de 15 km de la maison. Donc, c'est les gens qui partaient en vacances
fou, hein?
Ou qui revenaient des vacances. Le stress, on a-tu tous les bagages? On a-tu le plan repas? Où est-ce qu'on s'en va? Les enfants derrière dans l'auto, etc., etc. Donc, tout ça qui entre en ligne de compte.
Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur les routes, ça peut aussi être un facteur d'accident?
C'est sûr, parce que là, il y a plus de 200 000 travailleurs de la construction et beaucoup d'autres qui sont en vacances en même temps. Puis les gens se déplacent davantage au Québec. On l'a vu l'an passé, il y avait moins de gens qui se déplaçaient, entre autres, vers les États-Unis pour leurs vacances. Donc, les gens se déplaçant un peu plus au Québec, oui, c'est un facteur. Mais quand même, quand on regarde les données de l'an passé, puis c'est pour ça que cette année, on a maximisé les efforts de sensibilisation, qu'on a vu les données de l'an passé, 35 décès sur les routes en deux semaines. On n'avait pas vu ça depuis 2011.
Quand on parle de causes, de comportement humain qui cause la majorité des accidents. Qu'est-ce qu'on rentre dans le comportement humain puis qu'est-ce qui va dans l'autre catégorie?
La vitesse, entre autres. La vitesse, là, c'est responsable d'un accident sur trois. Puis pour les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans, c'est un sur deux. Alors, c'est pour dire que les gens roulent trop vite. Puis ça, c'est plus cool, là, rouler vite. Voyons donc, à quoi ça sert, sincèrement, là, pour arriver un petit peu plus vite à destination? Tu sais, souvent, on en voit sur la route qui nous dépasse, puis on arrive au feu rouge, puis on est rendu au même point. Hein? Tu sais, ça nous c'est fait toujours ça, un peu oui. sourire, là. Donc, tu sais, la vitesse, si tout le monde réduisait sa vitesse de 10 km/h par année, on sauverait 120 décès. Je veux dire, c'est énorme. Donc, il y a la vitesse, il n'y a pas que ça, il y a la distraction. La distraction au volant, c'est l'utilisation du cellulaire qui augmente de 4 fois les décès sur ta chance de décéder sur la route si tu utilises ton téléphone, puis pas juste appeler. Là, un texto, c'est utiliser son cellulaire au volant, le regarder du coin de l'œil, là, puis envoyer un petit message avec le pouce, là, c'est utiliser son cellulaire au volant.
Je parlais de messages longs à passer tantôt. J'ai l'impression que le texto, non seulement le message, c'est dur de le passer, on dirait que c'est rendu, les gens sont tellement habitués que c'est rendu... dans les habitudes d'avoir son sel, puis au moins aux lumières rouges de le sortir.
C'est comme si on ne pouvait pas attendre avant de répondre. Ouais.
Ben c'est ça. Ben laissez-vous désirer. Hein? On ne répond pas tout de suite, puis ça, on n'est pas capable. Ben, on désactive nos notifications, hein? Puis là, les gens vont ben voyons, il est où? Ben on y répondra une heure plus tard, c'est pas grave. Sincèrement, surtout en vacances. Fait que on fait attention à ça. Puis la distraction, c'est aussi être perdu dans nos pensées, être distrait par n'importe quoi sur la route. Là.
Moi, il y a une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que les gens qui, par exemple, vont avoir des véhicules un peu différents pendant les vacances, style on se loue un VR puis on décide de partir, ou on a beaucoup de déménagements, des travaux à faire, puis là, on va avoir des trailers attachés après nos voitures, etc. Est-ce que ça peut aussi être des fois une source d'accident? Moi, j'avoue que j'en vois des fois passer là, sur la route, puis ils n'ont pas l'air habitués.
Oui, quelqu'un qui ne connaît pas bien son véhicule, c'est pour ça que c'est important avant de partir de vraiment s'assurer de connaître toutes les fonctionnalités du véhicule, surtout si c'est un véhicule loué ou qu'on n'est pas habitué de conduire. Ça, c'est très, très important. Puis aussi, ne pas connaître les chemins à l'avance. Donc, les gens, des fois, en vacances, vont se déplacer dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Puis, bon, ben ça peut augmenter le facteur de stress. Fait que ça aussi, c'est un petit truc de dire, c'est pas grave si on se trompe de chemin, hein? On relaxe, puis ça nous prendra un petit peu plus de temps supplémentaire. Mais c'est vrai, oui, que l'utilisation de roulottes et autres, là, si on n'est pas habitué de conduire ça, là, oui. Fait que si on ne se sent pas à l'aise, c'est peut-être mieux de laisser quelqu'un d'autre là, conduire ce véhicule-là, ou bien de vraiment s'assurer avant de partir là, qu'on connaît bien toutes les fonctionnalités.
Le monde qui ne met pas sa ceinture de sécurité, ouais. C'est encore un vrai problème? Puis c'est drôle, on avait la discussion, je pense, autour de la table, il y a une couple de semaines de ça, que je disais, bien, me semble... Il n'y a personne qui fait ça, pas mettre sa ceinture de sécurité.
C'est 2 % des gens. Donc, 98 % des gens la portent, mais il reste comme une petite proportion des gens, des récalcitrants.
C'est
là,
des plus âgés, souvent, qui sont habitués depuis toujours à...
Pas nécessairement.
Ah ouais, hein.
C'est souvent combiné à un autre facteur de risque, donc la vitesse et la consommation d'alcool aussi. Donc, souvent, les gens qui ont consommé et qui font de la vitesse, bien, justement, vont laisser tomber la ceinture. Puis, il y a encore toutes sortes de fausses croyances aussi. Là. Certaines personnes là, qui ont des croyances comme quoi, si jamais la voiture tomberait dans l'eau, il resterait pris dans la voiture ou en cas d'accident. Non, c'est vraiment pas le cas. Au contraire, tu as beaucoup plus de chances de rester en vie en t'attachant. Là.
Il y a beaucoup de chantiers l'été.
Oui.
Au Québec, on n'a pas une longue saison pour faire certains chantiers. Ça, c'est quoi la tendance? On a l'impression qu'il y a plus de sensibilisation dans les dernières années pour la sécurité autour des chantiers, faire attention notamment aux travailleurs. Est-ce que ce message-là commence à percoler?
Bien, oui, en fait, on voit qu'il y a quand même une amélioration. Puis, tu sais, en plus, la vitesse limite est réduite là, dans les zones de chantier.
Puis l'étiquette coûte cher en passant.
Oui, oui, exactement. Là, c'est pas donné. Là. Fait que oui, ça commence à faire ses effets. On le martèlera jamais assez, mais encore là, c'est un facteur que souvent les gens sont pressés, ils veulent pas suivre les limites de vitesse que lorsqu'elles descendent. Mais c'est pas pour rien que les limites de vitesse, justement, sont descendues dans les zones de chantier. C'est justement pour faire attention aux travailleurs et aussi parce qu'il y a peut-être une augmentation du risque d'accident si on va trop vite. Là.
On parlait des cellulaires au volant, puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention par texto. Les fameux écrans géants, je vais les appeler comme ça, là, mais qui s'en viennent de plus en plus dans nos voitures. Ça commence-tu à créer des problèmes ou des accidents sur nos routes?
Bien ça, nous, on a à la SAC des équipes de la recherche qui étudient ces phénomènes-là, les nouvelles fonctionnalités dans les voitures, parce que oui, effectivement, là, ça peut causer de la distraction. Puis c'est vrai que parfois, les écrans sont beaucoup trop gros. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui, par exemple, aident à la sécurité routière. Hein, quand ça sonne dans notre voiture quand on n'est pas attaché ou quand on est en mode reculant puis qu'on est un petit peu trop près de la chaîne de trottoir ou d'un autre véhicule, ça, c'est bien. Mais oui, il y a certaines fonctionnalités de la voiture là, qui peuvent être dérangeantes. Mais il y a les études aussi qui sont faites ou qui vont être faites au cours des prochaines années là, pour étudier ces phénomènes-là.
En terminant, peut-être un petit mot pour qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les accidents, éviter que le bilan s'alourdisse encore là, pour le dernier week-end des vacances de la construction?
Il faut se responsabiliser. Il faut se dire, là, il nous reste 4 jours et demi pour renverser la vapeur. S'il vous plaît, soyez prudents sur la route. Ne commettez pas, justement, d'imprudence, pas de comportement imprudent. Soyez patients, surtout pour le retour à la maison. Oui, les vacances sont terminées. Ça vient des fois avec un sentiment différent, mais on retourne en paix à la maison. On veut surtout pas qu'il arrive malheur. On veut surtout pas qu'il arrive quelque chose à notre proche, parce que c'est des vies brisées, hein, chaque fois, quand il y a quelqu'un qui décède sur la route. Là, c'est des familles entières et des amis qui sont complètement dévastés. Donc, c'est important de le garder en tête puis se responsabiliser puis se dire « ça sera pas moi ».
Geneviève Côté, porte-parole et relationniste à la SAC. Merci beaucoup.
Merci. Bon été, bonnes vacances.
Au retour, les nouvelles avec Mathias. Et on a une nouvelle de dernière minute. Le suspect dans l'histoire du meurtre du côté de Shawinigan a été retrouvé par les autorités. On n'a pas d'informations à savoir s'il est en vie, à moins que je ne m'abuse, Mathias.
On n'a pas d'informations à ce sujet-là. Je vous le rappelle, c'est Philippe Benoît, 41 ans, qui était recherché depuis maintenant 4 jours, qui est présentement accusé de meurtre au premier degré sur son propre fils, Ryan Decheneau, 16 ans.
On vous tient au courant avec les détails. On est ensemble dans Le Retour jusqu'à 18h. Le Retour. 17h20 dans Le Retour à Boulevard 102, sans plus tarder. Mathias, on a quelques détails supplémentaires par rapport au suspect du meurtre du côté de Shawinigan qui a été retrouvé par la Sûreté du Québec dans les dernières minutes.
Oui, Philippe Benoît qui a été retrouvé, on dit sain et sauf, donc qui a été retrouvé en vie vers 16h30 aujourd'hui dans le secteur du lac Veillette. On le recherchait depuis maintenant 4 jours parce que cet homme-là est présentement accusé de meurtre au premier degré envers son fils Ryan Decheneau, 16 ans. On avait retrouvé le cadavre du fils dimanche. Et depuis ce temps-là, c'était une véritable chasse à l'homme pour retrouver Philippe Benoît. La Sûreté du Québec aujourd'hui qui avait demandé accès aux caméras de chasse. On disait, si jamais vous croisez l'homme, ne rentrez pas en contact avec lui. Il y avait des diagnostics de schizophrénie, entre autres, qui faisaient en sorte qu'on ne savait pas nécessairement dans quel état l'homme se trouvait. On a finalement réussi à mettre justement la main sur l'homme qui est présentement transporté à l'hôpital pour recevoir des soins.
Pour l'instant, on n'a pas idée là, des circonstances dans lesquelles on l'a retrouvé. Est-ce que c'est des informations du public qui ont permis de retrouver Benoît? C'est pas une information qu'on a. Normalement, la Sûreté du Québec, dans ce genre de cas-là, va faire un point de presse avec les informations qu'elle peut donner à peu près dans la prochaine heure.
Selon les informations qu'on a actuellement, puis beau travail du soleil, je tiens à le souligner, c'est les premiers à avoir sorti ces informations-là. C'est grâce à une information du public qu'on a réussi à retrouver Philippe Benoît. Des policiers qui ont dû utiliser la force pour maîtriser l'homme avant de l'envoyer vers l'hôpital pour qu'il puisse recevoir ses soins.
Bon, donc à suivre, mais comme je vous dis, là, d'habitude, il y aura un point de presse de la Sûreté du Québec ce soir. Est-ce que ce sera d'ici 18h pour qu'on puisse vous en parler? Peut-être pas. Dans tous les cas, soyez là demain matin avec la gang du Morning pour toutes les nouvelles.
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, affirme que son gouvernement a repris le contrôle de l'immigration. C'est lors d'un point de presse qu'il a affirmé tout un peu plus tôt aujourd'hui. Il a même avoué que lors de son arrivée au pouvoir, le gouvernement précédent, soit le gouvernement libéral aussi, avait un nombre d'immigration bien trop élevé. Il a même prononcé comme quoi le gouvernement avait perdu le contrôle du nombre d'étudiants étrangers, de travailleurs temporaires.
Très, très caquiste comme façon de faire, ça. Parler du gouvernement précédent là, qui avait perdu le contrôle et tout ça.
Surtout que le gouvernement précédent... C'était un gouvernement libéral aussi?
C'est ça.
C'était le gouvernement de Justin Trudeau, effectivement. Le premier ministre Carney qui met de l'avant que ce soit pour les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers ou encore les étudiants étrangers, on a beaucoup diminué le nombre admis chaque année. En parlant du gouvernement fédéral, on connaît maintenant le nombre exact de fonctionnaires qui souhaitent profiter du programme d'incitation à la retraite anticipée. C'est 6855 demandes qui répondent aux critères mis en place par Ottawa. Ce programme qui avait été lancé dans le but de réduire la fonction publique canadienne. Santé Québec a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante à la suite du décès de 3 mineurs pris en charge au centre de réadaptation jeunesse de Prévost. C'est 3 enfants de 4, 16 et 17 ans qui sont morts en quelques semaines seulement. également. Pour les deux plus vieux, c'est des suicides qui les a emportés. Et celui de 4 ans avait été retrouvé sous-nourri et avec des ecchymoses. Selon certaines sources de Radio-Canada qui travaillent au sein de ce centre-là, on dit que c'est le manque de financement qui aurait mené à la maltraitance de ces jeunes-là. Simons ont lancé un chantier majeur de 50 millions de dollars pour agrandir leur centre de distribution situé au parc industriel Espace d'innovation Chauveau à Québec. On parle d'un bâtiment de 10 000 mètres carrés sur 4 étages, des travaux qui devraient se terminer d'ici la fin de l'année 2027. C'est au total 150 employés qui seront engagés dans les nouveaux bâtiments de Simons. Le programme d'offre de thermopompes gratuites d'Hydro-Québec a été suspendu par la Société d'État. Pourquoi? On a reçu 30 000 demandes en l'espace d'un mois. Ce qu'on offrait du côté d'Hydro-Québec, c'était 20 000 thermopompes gratuites pour des ménages à faible revenu. Donc, pour un ménage, une personne qui habite seule, c'est un salaire de 59 000 $ ou moins. On a reçu 30 000 $ alors qu'on avait 20 000 thermopompes gratuites. C'est donc pour cette raison qu'on a fermé le programme. Le chef libéral Charles Millard est sorti dans les médias pour une des premières fois depuis quelques semaines maintenant. Et c'était pour dénoncer le fait que, selon lui, la première ministre Christine Fréchette joue un rôle de figurant au sein des relations canadiennes. On a entre autres dénoncé le rôle que la première ministre avait joué lors du dernier conseil de la Fédération tenu à Charlottetown. Le chef du Parti libéral qui affirme que lui, sous sa gouverne, il ferait entre autres une tournée du Canada pour renforcer nos relations avec le reste des provinces. On voudrait aussi remettre en place la rencontre des ministres québécois avec les ministres ontariens à chaque mois, chose qui a été abandonnée depuis le gouvernement de la CAQ. En parlant de gouvernements provinciaux et fédéraux, ça brasse aujourd'hui en politique en général. Le gouvernement de Mark Carney qui a abandonné des redevances de 5% qu'on imposait aux plateformes de diffusion américaines, entre autres Netflix et Prime Video. Ces mêmes redevances-là qui servaient à financer les médias et la culture d'ici. Du côté de Mark Carney, on explique la chose en disant « Ouais, mais c'est pas une concession qu'on donne aux Américains ».
On peut l'entendre.
Nous avons décidé juste après la décision du CRTC que c'est une question, et je viens de le dire, le gouvernement fédéral consente sur la volubilité sans relâche. Et la forte augmentation des primes pour des streamers, ce n'est pas acceptable dans la situation.
Et je veux juste terminer en vous rappelant encore une fois que Philippe Benoit, l'homme qui était recherché à Shawinigan depuis maintenant 4 jours, a été arrêté par la Sûreté du Québec.
Merci beaucoup, Mathias. On vous tient au courant de tous les détails qu'on va avoir d'ici la fin du show à 18h. Au sport, la NBA a annoncé aujourd'hui que les Jeux du Canada de la NBA 2026 allaient mettre en vedette 2 matchs préparatoires, un opposant les Raptors de Toronto au Heat de Miami au Centre Vidéotron à Québec le samedi 3 octobre et les Raptors aux Clippers au Rogers Arena de Vancouver le 10 octobre. Il s'agira d'un tout premier match de la NBA préparatoire quand même, mais disputé à Québec. Les billets qui seront mis en vente à partir du jeudi 20 août. Macklin Celebrini, qui deviendra le joueur le mieux payé de la LNH en 2027-2028. Il s'est entendu avec les Sharks de San Jose sur une prolongation de contrat de 518,8 millions de dollars par année qui entrera en vigueur en 2027. Dans la MLB, les Blue Jays de Toronto qui sortent victorieux de leur série face aux Nationals de Washington avec 2 victoires, 1 défaite, gain cet après-midi de 5-2 sur les Nationals. Et pour les Capitales de Québec, un programme double qui débutait il y a quelques minutes du côté de Trois-Rivières en raison d'un match hier qui a été annulé, reporté à aujourd'hui en raison de la pluie.
Qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne
chinoise
qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur et se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur.
Antonine, je sais que c'est quelque chose que tu suis de près, cette histoire d'espionne présumée. En fait, je dis espionne chinoise, mais là, c'est une Canadienne, en fait,
oui,
qui serait présumément une espionne pour la Chine, c'est-tu ça?
Oui, exact. C'est une personne canadienne d'origine chinoise. Pourquoi voilà. on précise qu'elle est chinoise? C'est peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, voyons, c'est bien stigmatisant. C'est qu'on a un enjeu en ce moment au Canada d'espionnage de la part de la Chine.
Pas la première fois qu'on en parle.
C'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a eu aussi des cas d'ingérence aussi. Il y a même une commission là, qui s'est intéressée à ça. En fait, le rapporteur spécial en termes d'ingérence chinoise en territoire canadien. Mais là, on parle vraiment d'espionnage. Et pas n'importe où, à l'OTAN. Donc, ça veut dire que cette personne-là, qui était stagiaire, qui était une jeune travailleuse, a réussi à aller chercher des autorisations, a fait l'objet de vérifications de la part du gouvernement fédéral pour travailler à l'OTAN, donc pour faire partie de la délégation qui allait graviter autour de l'organisation du traité de l'Amérique du Nord. De l'Atlantique Nord. L'Amérique du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas l'OTAN, c'est une organisation qui est militaire, qui est une alliance. C'est nos principaux alliés militaires qui se retrouvent dans cette alliance-là. Vous comprendrez que c'est hautement stratégique et sensible de se faire des vérifications pour travailler, graviter autour de l'OTAN. C'est pas censé là, être une formalité. Là. Je pense que c'est parmi les choses les plus sensibles qu'on peut être amené à faire quand on travaille autour du gouvernement canadien. Honnêtement, on a l'air un peu pic-pic face à nos alliés. Puis cette arrestation-là...
Une stagiaire. Oui. Sans rien enlever aux stagiaires, là, on a tous déjà été stagiaires ou presque. Même temps, moi, quand j'étais stagiaire chez Leclerc Communication, j'avais pas accès aux comptes et à tout ce qui est privilégié. Puis j'ai d'ailleurs encore accès à pas grand-chose.
Oui, je comprends.
J'étais pas à l'OTAN.
Mais tu peux être témoin de discussions qui sont privilégiées. Tu peux avoir accès à certaines bases de données, à de la documentation qui peut être sensible. Évidemment, on n'a pas beaucoup de détails. Puis le gouvernement fédéral est assez avare de commentaires dans ce dossier-là. Puis on comprend pourquoi. C'est les autorités belges qui ont procédé à l'arrestation. Puis évidemment, on n'a pas toutes les informations pour l'instant. Mais ça nous rappelle à quel point l'espionnage chinois, c'est un enjeu qui est important, qui est difficile à gérer. Puis je vous rappelle aussi que le Canada a entrepris de se rapprocher économiquement de la Chine dans les derniers mois, avec notre relation avec les États-Unis qui s'est effritée. Mark Carney qui a fait une mission en Chine, qui a signé des ententes économiques avec la Chine. Et pendant ce temps-là, on a un gouvernement du côté de la Chine qui fait de l'ingérence sur le territoire canadien et fait de l'espionnage. Moi, quand j'entends des histoires d'espionnage, c'est on peut s'imaginer que cette personne-là a été recrutée par les services secrets chinois, entraînée de manière très serrée et intensive et envoyée au Canada pour nous espionner. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Souvent, c'est des gens, j'ai envie de dire, ordinaires, qui se font approcher par le gouvernement chinois et qui se font demander de poser certains gestes, de leur donner, de leur transmettre certaines informations. Ça peut être en échange de rémunération. Par exemple, un stagiaire, des fois, ça peut être un peu plus vulnérable à ce genre de corruption-là. Ou alors, ça peut être des menaces voilées ou non par rapport à des membres de la famille qui se trouvent toujours en Chine. Le gouvernement chinois qui peut laisser entendre que ça serait bien plate qu'il arrive quelque chose à ton oncle ou à ta tante ou à tes parents ou à ton cousin.
Puis on se fait une vision bien hollywoodienne de l'espionnage, un peu comme quand Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois c'était vraiment fait ridiculiser pour dire qu'il était obligé de présumer que le Parti québécois était ciblé par de l'espionnage.
De la GRC. Pas d'un pays étranger. Ça dépend du point de vue, tu vas me dire.
Pour le PQ, c'est peut-être d'un pays étranger. Mais tu sais, cette sortie-là avait été tellement ridiculisée, puis en partie avec raison, dans le sens où Paul Saint-Pierre Plamondon aurait pas dû sortir avec ça.
Ça sortait de nulle part.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand tu regardes ça froidement, il y a des bonnes chances que le Parti québécois soit ciblé par une forme d'espionnage, peu importe laquelle, par la GRC ou le gouvernement canadien.
Une forme de surveillance, exact. De monitoring, de s'assurer. En fait, il y a beaucoup de citoyens canadiens qui font l'objet de surveillance de la part des services secrets.
Tu n'es pas obligé d'être un agent double au sein du Parti québécois qui est là avec des lunettes, avec une caméra cachée
dedans. Comme
dans
Mission Impossible.
C'est pas obligé d'être ça, de l'espionnage. De l'espionnage, c'est juste quelqu'un qui utilise des façons pour être témoin de certaines choses ou aller chercher certaines informations.
Des fois aussi, ces personnes-là ne parlent jamais vraiment avec, directement avec les services secrets. Ça se fait par personne interposée. Vous rappelez-vous, il y a quelques mois, si ça ne fait pas un an, il y a quelques mois, on avait découvert qu'une personne d'origine chinoise aussi avait procédé à de l'espionnage chez Hydro-Québec. Donc ça, c'est des choses qui intéressent le gouvernement de la Chine, d'avoir des informations sur des infrastructures, sur des aspects d'ingénierie, pour être en mesure, eux, de développer certaines technologies. Là, en ce moment, ce qui est très hot pour le gouvernement chinois, c'est d'aller chercher de l'information sur tout ce qui est aéronautique. Donc la Chine, de plus en plus, produit des choses à l'interne, essaie d'importer le moins de choses possible, veulent être à la fine pointe de la technologie dans plein de secteurs, mais accusent un certain retard en matière d'avions. Donc, fabrication de moteurs d'avions. Donc, c'est une des cibles en ce moment, un peu partout dans le monde, d'essayer d'aller chercher le plus d'informations d'ingénierie possible sur les avions. Donc, ça peut être assez banal. Quand on parle d'espionnage industriel, ça a des conséquences importantes, puis évidemment, c'est quelque chose qu'on doit combattre. Mais quand on parle d'espionnage plus stratégique par rapport à des éléments militaires, les conséquences dépassent beaucoup celles de tout simplement « c'est bien plate pour nous, quel dommage ». On parle de l'image du Canada à l'étranger dans un contexte où on essaie de bâtir et de renforcer des alliances avec, nos alliés européens. Et c'est pas quelque chose qui paraît très bien présentement. J'imagine qu'on aura plus d'infos sur qu'est-ce qui a été fait pour faire les vérifications. Puis l'autre élément, c'est que ce genre d'événement-là, t'sais, imagine être un Canadien d'origine chinoise en ce moment, travailler au gouvernement ou travailler justement avec des infrastructures stratégiques. Tu dois toujours te faire un peu soupçonner.
Merci beaucoup. Mathias, rappelle-nous cette nouvelle importante de dernière heure.
Oui, Philippe Benoit qui a été capturé du côté de Shawinigan. C'était l'homme qui était recherché depuis maintenant 4 jours dans cette fameuse chasse à l'homme-là. Philippe Benoit qui est accusé de meurtre au premier degré envers son propre fils Ryan Deschenaux, 16 ans. On avait retrouvé le corps de la victime dimanche au sein de la demeure de Philippe Benoit. On a quelques précisions concernant son arrestation. C'est grâce à une information du public qu'on l'a trouvé. Des policiers qui auraient dû utiliser la force pour le maîtriser et qui l'ont par la suite transporté vers l'hôpital pour qu'il reçoive des soins.
On vous tient au courant de tous les détails d'ici 18 heures. Là, je vous dis quelque chose. Ça a peut-être un lien avec quelque chose qui va se passer quand je vais lancer la pause. Je dis ça, je dis rien. À partir de là, soyez attentifs, puis le reste, pas mon problème. Du 13 au 16 août, le Festibiaire de Québec qui vous fait goûter l'été au Quai de l'Espace 400e. Et cet été, belle programmation musicale, vraiment, avec entre autres la Grand-Messe qui est pour moi le meilleur groupe hommage aux Cowboys fringants. Jay Scott sera là aussi, l'excellent Gab Bouchard. Plus de fun, plus de saveur, plus de diversité. Et puis, bien sûr, de la bonne bière de microbrasserie. Cette semaine, restez à l'écoute de Boulevard. Notez l'heure à laquelle vous entendez le signal sonore festibiaire et inscrivez-le dans la section concours du blvd.fm. Clin d'œil. Ce vendredi, vous pourriez gagner un forfait pour 4 personnes pour profiter pleinement du festibiaire. 4 verres, 25 dégustations à partager en gang. Boulevard 102.1 et le festibiaire. Festibiaire, fier partenaire de vos sorties estivales. Fait que si j'étais à votre place, je me rendrais drett là dans la section concours du blvd.fm.
C'est l'heure.
Minutes dans le retour à Boulevard 102.1. Presque une vingtaine de minutes à passer ensemble encore. On va bien sûr vous tenir au courant de tous les derniers développements par rapport à cette nouvelle de dernière heure qui évolue de minute en minute, Mathias.
Oui, Philippe Benoit, 41 ans, qui a été retrouvé par la Sûreté du Québec. C'était l'homme recherché dans cette fameuse chasse à l'homme-là qui se poursuit depuis maintenant 4 jours du côté de Shawinigan et du côté de Lac-aux-Sables. Pourquoi on recherchait cet homme-là? C'est qu'il est présentement accusé de meurtre au premier degré envers son propre fils, Ryan Deschenaux, 16 ans. Le corps du jeune homme qui avait été retrouvé dans la demeure de Philippe Benoit dimanche. Depuis ce temps-là, chasse à l'homme, on voulait retrouver l'homme. Ça a été chose faite aujourd'hui, 16h30, dans le secteur du lac Veillette, justement proche du lac aux Sables. On a retrouvé l'homme, des policiers qui ont dû utiliser la force pour le maîtriser. Par la suite, on l'a transporté à l'hôpital pour qu'il puisse recevoir des soins. On l'a retrouvé grâce à une information du public selon des informations du Soleil.
Avez-vous déjà joué aux Sims?
Ça fait longtemps.
fait longtemps.
Moi, ça s'appelait SimCity là, dans mon temps.
Ouais, ben, je pense qu'il y a eu plusieurs versions, là, mais en effet, SimCity en était une à la base. Saviez-vous que, à la base, les créateurs des Sims voulaient vraiment modéliser des vraies villes américaines pour qu'on puisse jouer dedans?
Le plus possible. C'est si songé que ça.
Oui.
Donc, comme on se base sur du vrai urbanisme.
Oui, fait que là, on faisait vraiment des grosses analyses. Puis, il y a une des affaires dont on s'est rendu compte assez rapidement du côté des créateurs des Sims. C'est, OK, si on fait ça de la façon dont c'est fait dans le monde réel, notre jeu va être plate en Simonac.
OK, c'est quels aspects?
On a trop de parking dans le monde réel.
Dans la vraie vie.
Il y a trop de parking partout. Puis c'était une entrevue donc qui avait été donnée en 2013 par le directeur créatif du jeu qui expliquait bon, qu'on voulait modéliser des vraies villes américaines dans le jeu. Puis qu'en observant les villes du monde réel, on a réalisé qu'il y avait énormément d'espace consacré au stationnement. Fait qu'on s'est dit qu'on pouvait pas reproduire les proportions réelles dans SimCity parce que le jeu aurait été vraiment plate. Et donc, dans SimCity, dans pas mal tous les jeux de la populaire série, il y a pas vraiment de parking. Si vous vous rappelez là, dans vos souvenirs, il y en a pas vraiment de parking. Les chars, ils roulent. Pis,
on sait pas où est-ce qu'on les met quand ils roulent pas.
Il y a vraisemblablement un gigantesque stationnement souterrain en dessous de toute la ville ou bien les chars disparaissent en arrivant à une limite,
mettons. Dans une autre dimension.
Et c'est Radio-Canada qui nous est arrivé aujourd'hui avec un gros dossier sur le coût méconnu du stationnement gratuit. Puis là, il y en a qui vont se dire, bon, ben...
La guerre à l'auto.
Radio-Canada fait la guerre à l'auto, puis... Regarde, on en prend puis on en laisse là-dedans, là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait dans les données du stock super intéressant. Une voiture s'est stationnée à peu près, selon l'économiste Donald Shoup, dans son livre « The High Cost of Free Parking », parce que quelqu'un qui en a littéralement fait un livre de ça, un char s'est stationné à peu près 95% du temps. Et pourtant, on n'en parle jamais du stationnement.
C'est vrai.
On parle tout le temps d'agrandir les routes. On parle tout le temps de des façons...
La mobilité, la fluidité. Ouais. Mais on parle pas du fait qu'il y a énormément d'auto-stationnés dans nos villes.
Ben plus qu'il y en a qui roulent. Une énorme majorité du temps. En fait, tout le temps. Il y a tout le temps plus d'auto qui bougent pas qu'il y en a qui bougent.
Ouais, puis vu qu'on se stationne presque tous en même temps la nuit... ou quand il y a des tempêtes de neige, il faut trouver des endroits pour mettre nos voitures. Il faut que tu aies au moins autant de stationnement que tu as de voitures.
Selon vous, aux États-Unis, il y a combien de cases de stationnement asphaltées pour une voiture?
Bien, mettons qu'on se dit que ça en prend une résidentielle puis une au travail, deux par voiture.
C'est autour de 6.
C'est entre 6 et 8.
C'est fou.
Fait que pour un char aux États-Unis... t'as de 6 à 8 places de parking asphaltées. La couverture totale des places de parking asphaltées aux États-Unis, là, quand tu prends le pays au complet, en superficie, en pourcentage, c'est 5 %.
5 % de la superficie des États-Unis?
C'est du parking.
C'est des parkings asphaltés?
C'est plus que pour le logement, selon... c'est un journaliste, là, Henry Grabar, qui est cité dans le dossier de Radcan, dans son livre « Pave Paradise, How Parking Explains Everything ». Fait que nous autres, on tombe là-dessus aujourd'hui et on se dit « c'est donc même malade comme dossier ». Il y a littéralement eu une couple de livres vraisemblablement là-dessus écrits du côté des États-Unis. Puis là, on se dit « bon ben, ça c'est aux États-Unis, on sait bien, les États-Unis, le paradis du char ». Ben, ce qu'on nous explique, ça c'est Jean-Philippe Meloche, professeur à l'Université de Montréal, c'est que les chiffres, selon les estimations, au Canada, seraient un petit peu en bas de ça, mais vraiment pas tant que ça. On serait juste un peu en bas.
On est un peu sur le même modèle que les Américains.
Ben c'est que c'est un phénomène qui serait nord-américain. On serait pas là-dessus tant différent des États-Unis. Dans notre philosophie, ben on s'attend à avoir un parking gratuit disponible en tout temps à peu près partout où on va.
Ouais, il y a des explications historiques aussi à ça. C'est que, par exemple, dans les villes en Europe, elles existaient et elles s'étaient développées bien avant l'arrivée de l'automobile. C'était pas fait pour les autos. Nous, bien, évidemment, il y a beaucoup du développement des différentes villes. C'est sûr qu'il y en a certaines qui sont pré-voitures, mais
ben,
beaucoup
mais c'est
sont développées autour de l'automobile.
Ben, exactement. Puis c'est pour ça que, tu sais, on se dit, ben là, je veux dire, quand tu vas dans le vieux Québec, on s'entend, c'est pas fait pour les chars. Ben pourquoi vous pensez? Quand tu vas dans le vieux Québec, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à l'Europe.
C'est ça.
C'est que c'est un secteur...
Ça n'a pas été songé pour que tout le monde puisse parquer son char et se promener en char.
Ben, c'est que c'est un secteur qui a été copié sur l'Europe. Puis tu viens de le dire, en Europe, ils n'ont pas nécessairement ce problème-là parce qu'ils ont pas souvent, ça n'a pas été conçu comme ça. C'est pour ça que...
Ben, c'est copié sur l'Europe, mais c'est aussi que ça date de plus longtemps
aussi,
que
ben
certaines
oui.
villes qui ont apparu un petit peu comme des champignons à partir des années 50. Là.
Fait que c'est pour ça qu'il y a des quartiers plus anciens ici à Québec ou à Montréal qui sont des exceptions au Québec parce qu'on s'est calqué sur le modèle européen. Et là, ce qui est amené comme argument dans le dossier de Radcan... c'est que ce nombre, cette superficie-là de parking, ben ça devient un obstacle au logement. Puis ici, on commence à le voir à Québec, des parkings qui disparaissent pour faire du logement dessus. T'sais, on pense au parking que tout le monde aimait bien à l'îlot Dorchester. Là.
Ben oui.
Ça, je pense que ça va faire du bien d'avoir du logement là. Mais on va se le dire... On est déçus aussi de ne plus l'avoir, le parking à ce place-là qui était bien pratique.
Oui, puis on est habitué beaucoup à Québec, si on prend juste l'exemple de Québec, on est habitué à l'auto solo. On est habitué à pouvoir aller n'importe où avec notre auto puis se trouver une place de stationnement.
Puis l'un entraîne un peu l'autre. Étant donné qu'on est habitué d'avoir nos automobiles, bien, par exemple, tu t'ouvres une épicerie. Puis on l'a vu dans le secteur de Montréal, là, un maxi sans stationnement là, récemment. Là, mais... Tu peux-tu t'imaginer ouvrir une épicerie à Charlebourg ou à Val-de-Bélair puis t'ailles pas de stationnement pour ton épicerie?
Non, évidemment, je pense qu'il faut réalistement commencer par des secteurs plus denses. Mais voyez, on parle d'avoir un vieux Québec sans voiture, puis les gens réagissent très, très mal quand on parle de ça. Donc, imaginez, évidemment, plus qu'on s'en va en banlieue. Moi, par contre, j'avais jamais pensé à tout ce que t'amènes. C'est vraiment intéressant. Mais il y a quelque chose qui me traverse l'esprit régulièrement avec les voitures dans nos villes, c'est... On les voit comme pu, mais peu importe où tu regardes, il y a un beau parc, des voitures stationnées en avant. Le beau vieux Québec, des voitures stationnées devant. Il y a des voitures stationnées partout. Mm. C'est comme si on n'a jamais une vue dégagée sur rien, mais on est habitué à ça. Mais en quelque part, ça gâche un peu la vue aussi. Puis là, je sais, je vais recevoir des messages de gens qui disent que je suis une haïsseuse d'auto.
Tu fais la guerre à l'auto.
J'ai une auto, j'aime ça rouler en auto. Mais ça me traverse l'esprit des fois qu'il y en a en tabarouette des autos dans nos villes. Là.
Ben oui. Puis un autre aspect qu'on ne connaît pas vraiment, c'est le poids financier pour les villes d'offrir des stationnements, particulièrement quand ils sont gratuits. On nous mentionne qu'à Montréal, une case en bordure de rue, ça coûterait en moyenne 1275 $ par année. À la ville,
pour la ville
de Montréal. C'est des calculs du Conseil régional de l'environnement. Il y en a qui vont dire bah, « Conseil régional de l'environnement, ça doit booster les chiffres. » Peut-être, je sais pas. ça, c'était en 2023. Puis, on prenait là-dedans des coûts d'entretien, de déneigement, mais on entrait aussi les coûts du terrain. En disant « c'est une case qu'on pourrait... » C'est pas tout seul, on s'entend, mais quand tu divises tout ça, qui pourrait servir à autre chose. Et même le coût des vignettes, peut être une coupe de 10$ comme une coupe de 100$, dépendamment des endroits, des arrondissements, ça ne couvrirait pas, vraiment pas le coût réel qui est payé par la municipalité et donc par les contribuables en bout de ligne.
Un autre enjeu avec les stationnements, t'sais, nous, on travaille dans un grand stationnement, là, on est entouré
ben oui.
de parking, on est dans une zone qui est moins dense. Les inondations dans les villes. Le fait que, tu sais, la nature était faite pour que il y avait des grosses pluies, puis ben ça rentrait dans du gazon, puis dans de la terre, puis dans des roches. Quand tu fais un grand stationnement, c'est de l'asphalte. L'eau s'accumule, puis elle se ramasse à certains endroits de façon complètement démesurée, puis là, ça fait des grandes slides d'eau qui s'en vont toutes à la même place. On essaie de faire des égouts pour les ramasser, mais les égouts sont souvent dépassés par les événements, les infrastructures coûtent cher aux villes à entretenir. Puis on nous parle de plus en plus de parcs éponges. Puis là, je sais que ça fait rire les gens, les parcs éponges, mais voyez plus ça comme on fait en sorte que on est entouré d'endroits qui peuvent absorber de l'eau. C'est juste ça. C'est qu'au lieu d'avoir un grand stationnement en asphalte où est-ce que l'eau ne se draine pas, bien, puis ça fait des îlots de chaleur aussi pendant l'été, bien, on essaie de construire les affaires différemment puis intelligemment. Mais c'est sûr que si tu réduis jamais le nombre de places de stationnement, un stationnement, c'est un des pires concepts qu'on ne peut pas avoir, qui est non absorbant, là.
Il y a, dans le texte, une image satellite. Mettons au-dessus pour vous situer de Place Laurier, puis on nous montre le futur trajet du tramway. Puis encore là, il y en a qui vont dire, ben là, vous voyez bien l'agenda de ce dossier-là. Peut-être, c'est pas ça le point. Je trouve qu'il y a du stuff intéressant, peu importe l'agenda ou whatever. L'image satellite frappe, là. C'est pris d'assez haut, c'est que du parking. T'as une coupe de billes autour, c'est que du parking. Puis ce qu'on écrit en sous-texte, c'est que les grands stationnements du boulevard Laurier avec l'arrivée du tramway, ben selon les promoteurs, ça cache un énorme potentiel de reconversion. Puis c'est sûr que tu vois ça, tu te dis, quelle perte d'espace! On pourrait tellement, on manque de place là, pour bâtir, puis idéalement bâtir en hauteur, ça serait une bonne idée, puis c'est ce qu'on veut commencer à faire, la fameuse densité, tout ça.
Oui, mais c'est pas encore réaliste de s'en passer, tu sais, parce que tout ça vient de pair avec le développement du transport collectif. Puis ça prend du temps. Okay? Quelqu'un qui a été habitué à prendre son auto...
Hey, tu enlèves son parking, puis ça...
Ça marchera pas. Non. Faut miser sur les prochaines générations. Tu sais, les jeunes en ce moment qui n'ont pas encore d'auto, qui prennent l'autobus pour aller à l'école secondaire, puis au cégep, puis à l'université, plus tu retardes le moment où ils ont besoin d'une auto... Tu sais, moi, j'ai pris l'autobus jusqu'à comme 30 ans, là. J'avais pas besoin d'auto, j'habitais en ville, j'étais habituée comme ça, c'était correct. Puis là, à un moment donné, ben, t'as des enfants, puis là, tu... Puis j'ai commencé à prendre l'auto. Hey, ça me tente plus de prendre le bus, là. Une fois que tu t'habitues à ton confort. C'est donc, correct. On changera pas ça du jour au lendemain. Puis je sais que, tu sais, on va recevoir des textos, le monde dit « Qu'est-ce que t'as contre mon char? » Sérieux, je suis la pire, OK? J'aime ça prendre mon auto, puis j'aime ça vivre à Québec, justement, parce que je trouve que c'est auto-friendly. Puis quand je vais à Montréal, je capote de me trouver une place en stationnement. Je suis la première. Mais quand t'as une vision plus à long terme de ça devrait être construit comment une ville, moi, je pense que tranquillement, on va s'en aller vers d'autres choses. Des grandes villes avec des îlots de chaleur, des grands stationnements, puis ça cause des inondations. Il ne faut plus construire comme ça. En tout cas, les prochaines choses qu'on a à construire.
Mais en même temps, je pense que c'est dans l'équilibre aussi. Là. Moi, j'aime ça aller à Place Laurier, puis avoir mon parking. Puis je le pense, là, ça fait partie de Québec. C'est une des choses que j'aime de la ville d'ailleurs.
Le parking de Place Laurier.
Tellement
beau!
Que ce soit le parking de Place Laurier. Mais mettons, j'habite dans Sainte-Foy. Peu importe où que je veux aller à Québec, je prends ma voiture, je suis à 15 minutes de route. Peu importe.
Ah oui, on apprécie ça, c'est la première.
Je me rends là, je me parque, je débarque, c'est simple.
Mais tu sais, OK, mais mettons que je te dis qu'à partir de maintenant, tu peux plus aller dans le Vieux-Québec en auto. Moi, je comprends pas pourquoi ça fait un tollé.
Mais
on devrait
limite...
débarquer de notre char à mané, d'être capable de mettre notre voiture dans un stationnement incitatif puis de faire le reste en transport collectif ou à pied.
Mais il y aurait le stationnement incitatif, donc on aurait le parking de toute façon. Dans une situation comme ça.
Mais s'il y avait un transport collectif assez efficace pour que tu fasses un bout de chemin, probablement que... il y aurait globalement moins d'auto. Peut-être que les familles n'auraient pas de deuxième voiture, par exemple.
Ah, mais je le prends. Tu sais, étant donné que j'habite dans Sainte-Foy, Est-Ouest, la ville de Québec, ça se fait très bien en transport en commun avec les métrobus. Fait que pour aller dans le centre-ville, souvent, je vais prendre l'autobus. Mais si je veux y aller en voiture, ben, je vais quand même avoir cette option-là.
Mathias Turcotte, oui. Avant la fin du show, qui se termine dans quelques minutes, peux-tu nous faire un dernier update là, de la grosse nouvelle de dernière heure après cette chasse à l'homme qui aura duré plusieurs jours?
Oui, bien sûr, c'est Philippe Benoît, 41 ans, qui est présentement accusé de meurtre au premier degré envers son propre fils Ryan Decheneau, 16 ans. Le corps du jeune homme qui a été retrouvé chez Philippe Benoît dimanche. Et depuis ce moment-là, on est en chasse à l'homme pour retrouver Philippe Benoît, qui a finalement été retrouvé à 16h30 aujourd'hui dans le secteur du lac Veillette. Beau travail du Soleil et du Nouvelliste dans cette affaire-là, qui ont sorti les informations en premier d'ailleurs. Ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est que c'est une information du public qui ont permis de mettre la main sur l'homme. Les policiers qui ont dû utiliser la force pour le maîtriser, par la suite, on l'a transporté à l'hôpital pour qu'il reçoive des soins. On n'a pas nécessairement tous les détails détails concernant ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, mais on peut deviner l'homme justement qui va devoir répondre des accusations auxquelles il fait présentement face.
Merci beaucoup Mathias. Demain matin, dès 6h30, soyez là avec l'équipe du Morning. Assurément qu'on aura déjà beaucoup plus de détails. En attendant, ce soir, c'est le début du festival du côté du Parc Champigny à Lévis. Grosse tête d'affiche électro avec Marshmello. Pas mal dans mes tops en termes de gros noms dans l'électro. Là. Moi, en quelques semaines, je vais avoir vu Martin Garrix, qui est mon top au FEC. Puis là, Marshmello du côté de Lévis ce soir. Toute une soirée en vue. Mathias, tu y seras?
Je vais y être. Je veux juste faire un petit avertissement. Si jamais vous aimez beaucoup Marshmello, mais que vous aimez pas les shows qui brassent beaucoup, n'allez pas en avant. Parce que tu peux te faire prendre avec Marshmello en show, ça peut commencer à brasser pas mal. Là.
En show, oui, il y a ses hits, puis il y a les tunes plus grand public, mais il est capable de brasser aussi là, avec des fois du genre de dubstep et tout ça. Là. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always fucking up and wrecking shit. It seems like I perfected it. I offer you my love. I hope you take it like some medicine. Tell me ain't nobody better. Antonine, on te croise là aussi ce soir?
Non! See the better in me. Always end up better
in me. I don't wanna ruin this. Dans tous les cas, on se retrouve demain matin. Non, pas le matin. Non, laissez-moi dormir.
Ouais, c'est ça. Dors un peu, Max.
Demain, 14h, c'est notre dernière parce que je vous rappelle que lundi, 14h, c'est le retour de l'équipe de Gravel dans le retour. Mathias, merci.
Ça fait plaisir.
Antonine, merci.
À demain.
À demain. Et bon show ce soir au Festival de Lévis.